Oui, Étienne Butzbach de la Conférence nationale de refondation de l'éducation. Je voulais juste en rajouter une couche après ce qu'a dit Éric Favet sur la façon dont on peut incarner réellement, au-delà des discours, le concept d'égalité dans les PEDT. Il me semble nous avons une approche à Rennes qui me semble assez féconde et qui est au-delà de la question de l'accessibilité, au-delà de la question de la mobilité, et sur laquelle Éric a parlé, mais auquel on pourrait ajouter aussi la question de l'inclusion dans les PEDT, du déplacement ailleurs qu'uniquement dans la ville. C'est le problème des classes découvertes, c'est le problème des vacances, des séjours vacances, etc. On voit bien que la focalisation sur les activités post- et périscolaires a souvent fait que des choix sont opérés au détriment de ces activités qui sont elles-mêmes essentielles pour pouvoir ouvrir l'horizon des enfants. Il y avait 12 autres termes que nous avions travaillés sur Rennes, c'était la question de la diversité. C'est comment, effectivement, il y a aussi, sur les questions des pratiques interculturelles, sur la question de l'ouverture au monde dans sa diversité culturelle, c'est comment cette dimension est-elle prise en compte dans les PEDT. Et l'autre élément, c'est la mixité. Hein, on ne l'a pas évoqué ce matin, mais d'aucuns ne seront pas étonnés que j'évoque ce terme. Mais là aussi, le PEDT, dans sa... non pas dans son acception limitée, qui était celle de la circulaire, mais dans son acception de projet éducatif global, doit aussi mettre comme un élément important de cette affaire, cette question de la mixité, que ce soit d'ailleurs à l'école, tout le débat qu'il y a aujourd'hui sur la façon dont on réintroduit de la mixité dans un certain nombre d'établissements qui en sont dépourvus, mais aussi dans les activités post- et périscolaires. Voilà, je voulais juste en disant que finalement, ces quatre termes, accessibilité, mobilité, diversité, mixité, sont l'incarnation dans le concret de ce passage des intentions aux actes que demandait Éric Favet.
Notre réaction peut-être.
Bonjour, je travaille pour une direction départementale de la cohésion sociale. En fait, je suis en poste adapté de l'éducation nationale. J'étais avant professeur des écoles. Voilà, ce sont des ennuis de santé qui m'ont amené à jeunesse et sport suite à un master que j'ai fait pour arriver à une reconversion professionnelle. J'ai fait un mémoire sur la mise en œuvre des PEDT dans mon département et notamment les relations entre acteurs. Et ce que je voulais demander à Yves Fournel, c'est si dans votre enquête, cet enjeu d'égalité est vraiment ressorti. Parce que moi, je vis un décalage complet. Moi, je partage tout à fait cet enjeu d'égalité. Et en fait, j'ai l'impression qu'il n'est pas du tout partagé comme je l'entends ce matin. Il est certainement affiché dans les textes, mais il y a une perdition énorme entre ce qui est affiché comme ambition dans les textes au niveau national et la façon dont c'est vécu, approprié ou surtout pas approprié au niveau local. Et alors, sans parler des communes qui assument ouvertement une politique inégalitaire dans le cadre des PEDT, alors je voudrais poser aussi la question des injonctions vécues sur le plan local à valider des PEDT qui me semble parfois être validé dans des conditions absolument aberrantes, quand sur une même commune, on a des horaires, des activités qui sont différentes selon les quartiers. Bref, sans parler même de ça, mais cette question de l'égalité, en réalité, elle me semble parfaitement taboue. Les attentes des parents, moi j'ai l'impression qu'elles sont en réalité très différentes selon les classes sociales pour les temps périscolaires. On a des parents qui veulent effectivement que ce soit un temps qui vienne renforcer les apprentissages scolaires. Et vous disiez, les classes populaires, je suis tout à fait d'accord, elles surinvestissent plutôt la question de la scolarité. Donc elles, ce qu'elles réclament, c'est souvent de l'aide aux devoirs, faire en fait plus d'école après l'école, ce qui n'est évidemment pas le but de la réforme et qui n'est sans doute pas efficace sur le plan des apprentissages. Et puis des classes moyennes supérieures, on va dire, qui elles sont sur le développement de l'enfant, enfin, et qui partagent pas du tout en fait cet objectif d'égalité. Je voulais donc savoir, Yves Fournel, dans votre enquête, si ça ressort réellement, parce que en fait, en faisant mon mémoire, je suis arrivée à la conclusion que je voudrais faire un autre travail, mais sur cette question-là, parce que finalement, ça a été la grande absente dans ce que j'ai rencontré moi sur mon terrain.
Peut-être une dernière question, et puis ensuite on fera réagir nos.
Moi, je suis Alexis Lebert, je suis principal adjoint sur un collège REP+ de l'Académie de Paris. Je vais avoir deux remarques. La première remarque, une remarque et une question. Ma première question, ça concerne l'articulation entre les projets éducatifs, sachant qu'on a quand même une temporalité qui a été posée par Monsieur Fevey sur le fait de prendre du temps, alors qu'on se rend compte qu'on a des injonctions, soit politiques, soit hiérarchiques, de répondre dans un temps relativement court. On l'a vu sur la concertation préalable, quand on sent que 70% des PEDT sont construits sur une concertation préalable, à un moment on se pose la question des 30% restants, question qui a été posée. Mais derrière, on a quand même des injonctions et on a derrière la difficulté de devoir mettre en place ces projets. Deuxième question, et plutôt deuxième remarque sur cette première question, c'est l'articulation sous la forme de poupées russes. On se rend compte que globalement, on a aujourd'hui des projets qui coexistent les uns avec les autres, des fois sans relation, par faute de méconnaissance ou par faute de temps pour pouvoir les connaître. Néanmoins, on se rend compte que l'articulation, si elle était faite sous une forme de poupée russe, avec un développement du PEDT, du projet de réseau, du projet d'établissement, permettrait une meilleure efficience et une meilleure efficacité. Donc ça, c'était mes deux questions préalables et j'attendrai ces réponses-là. Et une remarque supplémentaire qui concerne aujourd'hui la sacralisation ou en tout cas la sanctuarisation des PEDT. Quand on voit qu'on a un sérieux coup de rabot du volet éducation dans les contrats de ville qui va concerner 10% et qui va se toucher en termes de financement, même si la question financière ne devait pas être abordée, si je l'ai bien compris, mais elle va être quand même aussi primordiale, c'est-à-dire qu'à un moment, le volet éducation, quand il est amputé de 10%, ça ne va pas sanctuariser un certain nombre de PEDT. Voilà mes deux questions. Merci.
Peut-être une série de réponses déjà. Alors éventuellement, Yves, sur la question du tabou local autour des questions d'égalité.
Alors, la question de la qualité est posée, une ambition de qualité est posée dans quasiment tous les PEDT. Simplement, qu'est-ce qu'on met derrière qualité? Très souvent, j'ai essayé de le dire, mais très schématiquement, c'est abordé sous la forme de plus d'activités plus diverses, faciliter l'accès à travers ça au sport et la culture, mais pour le moment et au début, et encore une fois sous la pression d'une urgence vécue, c'est quand même ça. On voit bien que la question de la qualité doit être travaillée bien au-delà de cette question d'une liste à la Prévert d'activités les plus variées possibles. Avec effectivement des attentes différentes de familles, de parents, selon leur situation. On rencontre effectivement ces questions. Alors après, soit on s'arrête au constat et on se désespère, soit effectivement, et c'est ce que je voudrais inciter à discuter, c'est comment on dépasse cet état de fait, comment on avance, comment on pose des enjeux de contenu, de projet, de développement d'action qui répondent aux enjeux éducatifs d'aujourd'hui, au-delà de cette première approche. Donc oui, il y a une question véritable, mais non, il ne faut pas se... penser que tout est joué et qu'on n'avancera pas, il est possible aujourd'hui et il faut les travailler, c'est la suggestion qu'on peut vous faire. Sur la question des différences des attentes, c'est justement la question du produire du commun. C'est comment, et c'est pour ça que la question de la concertation elle est décisive, et de la qualité de la concertation est décisive. C'est comment on fait rencontrer, ça concerne aussi bien les enfants, les professionnels que les parents. Comment on les fait, on trouve des actions presque prétextes pour les faire rencontrer, se confronter leur point de vue, réfléchir, agir ensemble. C'est, me semble-t-il, ça, les pistes de réponse par rapport à ces questions. On a volontairement, parce que ce n'était pas l'objet, voulu aborder les questions de financement, mais ce n'est pas pour les négliger. C'est pour ça que j'avais quand même laissé deux indicateurs au milieu sur ces questions. Je ne peux pas répondre à votre interrogation sur ce point, elle existe.
Messieurs, je pensais notamment à cette question, et tu l'as redit, du temps long, par rapport à ce que vous évoquiez, indépendamment de l'injonction du calendrier politique ou des injonctions hiérarchiques. me semble qu'effectivement, c'est peut-être une des difficultés de trouver le temps et les espaces où on puisse effectivement élaborer finalement une culture commune et une culture partagée. Et c'est aussi un des enjeux par rapport à ce que vous évoquiez, c'est qu'on voit bien que ce n'est pas l'agrégation des représentations et des demandes locales dans une logique, je veux dire, fournisseur-client, qui va faire émerger effectivement la dynamique collective et les logiques coopératives qu'on évoquait, je pense. C'est peut-être un point important à retenir, c'est de dépasser l'approche de la démocratie participative comme étant essentiellement une identification des demandes de catégories d'acteurs, mais réellement mettre en place un espace de collaboration. C'est ce que tu évoquais, Yves, sur les questions de concertation. Peut-être un point, moi, sur lequel, et je rebondis un petit peu sur l'approche qu'évoquait Étienne Busbach sur la question du projet éducatif global. Vous ne l'avez pas abordé, messieurs. Le PEDT, on l'a dit, hein, est souvent, peine souvent à dépasser un projet communal ayant trait au périscolaire et uniquement pour les élèves scolarisés en élémentaire. Pour autant, on voit bien à quel point il faudrait avoir une approche de projet qui soit plus englobante, à la fois sur l'ensemble des temps éducatifs et puis à la fois sans doute au-delà de la scolarité primaire. Je ne sais pas si vous avez des éléments de réflexion par rapport à ça ou d'expérience de terrain que vous avez pu constater.
Je crois que c'est plus des éléments de questionnement collectif hein, qu'on a entre nous, il me semble, que des réponses définitives. D'abord, ça n'est pas une contradiction d'afficher une ambition commune à travers ce qu'on met derrière les PEDT, les politiques éducatives globales, etc., et le sentiment qu'on a d'une très grande diversité et d'un foisonnement qui nuirait à la question de l'égalité. Une réponse unique avec des modalités d'action uniques n'a jamais constitué une réponse à la question de l'égalité. Donc je crois qu'il faut assumer ça. Simplement à condition, comme Yves l'évoquait, que nous sachions pourquoi on met en œuvre concertation, co-construction, co-élaboration, coopération des acteurs, évaluation, etc. C'est ce qui permet de voir si, par exemple, en termes d'égalité, on n'a pas simplement des intentions et après on fait juste que empiler des activités, par exemple. Alors, par rapport aux questions qui restent en suspens, il me semble aujourd'hui, il y a celle de la difficulté de percevoir parfois dans des PEDT une volonté qui dépasse l'instant même du PEDT. Le PEDT est destiné, on va dire, aux enfants d'âge d'école primaire, hein, école maternelle, éventuellement en lien parfois avec une politique de la petite enfance, on le voit de temps en temps, mais il y a assez rarement de projections sur « et après 12 ans, qu'est-ce qu'on fait quand on habite sa ville, son intercommunalité, son village ?» Voilà. Bon, le constat, c'est qu'il y a quand même, entre guillemets, beaucoup moins d'activités organisées pour les jeunes qui ont plus de 12 ans que pour les enfants qui ont moins de 12 ans, globalement. Et ça vaut pour le milieu urbain comme pour le milieu rural. Mais c'est encore plus fort sur le milieu rural. Et la question d'ailleurs du déplacement, de la circulation, de l'ouverture se pose aussi aujourd'hui très lourdement sur le milieu rural. On a des jeunes au collège qui, très rapidement, on le voit, n'ont pas de perspective parce que, encore une fois, on croit que ça circule, mais ça ne circule pas. Ça circule derrière les écrans. Ça circule pour aller dans la zone commerciale une fois par mois pour acheter des baskets. Mais dans les représentations, ça circule très très peu. Voilà. Dans les contacts réels aussi. Ça va circuler quand on va aller au lycée, voilà, parce que le collège, il est au chef-lieu de canton. Donc c'est la même chose. Donc je pense qu'il y a là une vraie question nouvelle, ouverte, sur une politique éducative locale, globale, qui ne prend pas en compte simplement la question de l'enfance, mais qui prend en compte progressivement aussi celle de l'adolescence, je dirais, dans toute son acception. Et aujourd'hui, entre les ados naissants, les adultes naissants, etc., bon, on voit que c'est des périodes qui peuvent être... Et je trouve, moi, par extrêmement intéressant, les territoires qui s'inscrivent dans les logiques développées par certaines caisses de l'allocation familiale de développement social territorial local. Voilà. Et qui prennent en compte la question du développement humain, pas simplement du point de vue des loisirs des enfants et des jeunes, ou d'une politique éducative, y compris scolaire, limitée aux moins de 12 ans, mais en gros sur la quasi-totalité de la vie, y compris en considérant que ce qui se passe au début est assez déterminant, mais pas définitif, concernant ce qu'on appelle la formation tout au long de la vie. Je ne parle pas simplement de l'adaptation à l'emploi, mais la capacité à se cultiver tout au long de sa vie pour faire sa place sur son territoire, etc. Ce qui me fait dire, mais c'est une formule, hein, il en faut de temps en temps, que derrière les politiques éducatives globales dessus, dont une des traductions est le PEDT, mais on voit que c'est une, c'est une traduction partielle, à la fois en termes de public, de temporalité, etc., pourrait viser globalement comme objectif de faire en sorte que chacun apprenne à faire le meilleur usage de son territoire. Chacun apprenne à faire le meilleur usage de son territoire, à des fins personnelles, de formation personnelle, mais aussi à des fins de vie collective dessus. Ce qui parfois, si on se rappelait ça, nous éviterait d'être obsédés par le remplissage. Parce qu'apprendre à faire le meilleur usage de son territoire, c'est pas forcément avoir un emploi du temps continu de 7h30 du matin à 19h30 parfois. On a quand même un peu cette obsession-là. C'est comme si tous les temps devaient être quelque part gouvernés dessus. J'imagine que c'est ce que Philippe dit quand il parle des ruptures. Il dit, Philippe Mérieux, voilà. Quand est-ce que les enfants et les jeunes ont des temps dont nous ne savons rien ? Alors on va dire sécurité, etc. Oui, mais assumons le fait qu'une des meilleures sécurités, c'est aussi de gérer l'insécurité, hein, parfois, à titre personnel. Les psychanalystes savent bien ça, les psychiatres. Donc, cette espèce d'obsession de remplissage et du contrôle et de la maîtrise de tous les temps n'est pas le meilleur service à rendre quand on veut permettre à toute personne de maîtriser sa vie. Parce qu'on doit faire aussi l'apprentissage de l'incertitude, non pas du vide, mais de moments dans lesquels on n'a pas de recours d'appui possible que soi-même, et que parce qu'on peut aussi choisir à un moment d'occuper cet espace et ce temps avec ce qu'on décide de faire, y compris de ne rien faire. On sait qu'on ne fait jamais rien, voilà, même quand on est dans la solitude de la méditation, on ne fait jamais rien. Voilà. Donc, je pense que, et je termine là-dessus par rapport à la question des parents et des attentes des parents, parce que, comment dire, il y a derrière ça à la fois des choses qui sont vraies, et puis parfois, c'est un alibi pour nous, l'attente des parents, quand je dis pour nous, aussi bien pour l'école que pour les formes organisées. Voilà. On se dit, les parents attendent d'eux. Ah oui, les parents attendent d'eux. Les parents, ils sont tous passés à l'école. Donc forcément, la représentation qu'ils ont de l'école, c'est ce qu'ils y ont vécu. Ce n'est pas l'école d'aujourd'hui, c'est très souvent leur propre parcours scolaire. En plus, c'est un moment où, quoi qu'on en dise, il vaut mieux avoir un bon parcours scolaire pour s'insérer dans la société que de n'avoir rien du tout. L'obsession de la réussite scolaire, elle est sans doute encore plus forte qu'avant, même s'il y a quelques indicateurs qui montrent que ce n'est pas aussi simple que ça. Hein. Et je trouve que ce qui est important aujourd'hui dans la phase, alors qu'Yves appelle de concertation, j'irais dans la phase de dialogue, d'échange, quand on construit quelque chose, ou quand on l'évalue, ou quand on fait des rendez-vous réguliers autour du projet éducatif, c'est l'occasion pour tous les acteurs de se remettre d'accord à la fois sur les ordres du jour respectifs et sur l'ordre du jour commun. Ce qui est compliqué. L'ordre du jour de l'école, il est connu, hein, il est fixé par la loi, les programmes, le fonctionnement de l'institution, etc. L'ordre du jour du projet éducatif de territoire, on va dire, c'est la collectivité territoriale. La loi, pour le coup, remet le projet éducatif de territoire entre les mains de la collectivité territoriale. Cet ordre du jour peut être imposé, discuté, négocié, revu, etc. L'ordre du jour de la famille, bon, il y a quelques impositions par la loi, quelques obligations quand même pour les parents. Pour le reste, c'est la grande liberté laissée aux familles d'éduquer, d'élever leurs enfants comme ils l'entendent. Essayez quand même, malgré cela, malgré l'existence de l'ordre du jour du monde associatif, c'est leur objet, leur projet, etc. Dessus. Essayez de se mettre d'accord sur un ordre du jour commun, c'est quand même partager un minimum d'informations qui sache que chacun est bien au courant justement des ordres du jour particuliers. Moi, c'est ce que j'appelle, je ne suis pas le seul d'ailleurs, je crois que Philippe Mérieux l'utilise aussi, la question de l'obligation de moyens. Voilà. C'est l'occasion pour chacun de se dire qu'est-ce que chacun fait à sa place, en termes de mobilisation des moyens qui sont à sa disposition, et tout le monde en a, y compris les familles, et y compris les familles les plus populaires ou parfois même les plus paupérisées, elles ont des moyens, au sens elles ont des capacités, elles ont des capacités, elles ont des cultures, elles ont des savoir-faire, etc. Comment tout cela est mobilisé au service, finalement, d'une considération commune pour les enfants sur le territoire. Voilà. Et parfois, si on faisait ça, et si on prenait un peu plus de temps à ça, on n'aurait pas ce qu'on appelle des attentes qui sont des attentes un peu faussées et biaisées. Évidemment que les parents, ils attendent de tous les temps éducatifs aujourd'hui, il y a une telle obsession scolaire que ces temps-là soient consacrés principalement à faire en sorte que leurs gamins réussissent à l'école. Surtout quand en plus, l'école se comporte parfois d'une manière étrange par rapport à la loi qui la concerne. Je veux parler des devoirs et du travail scolaire. Ah oui, les devoirs écrits sont interdits à l'école primaire. Sont interdits, c'est en clair dans la loi et rappelé régulièrement. Et le travail n'est pas interdit, il est même fortement incité, mais il l'est avec une forme de mesure. Pour les parents ici concernés qui ont des enfants au collège ou des enfants au lycée, la question de la mesure devrait faire partie au moins d'un débat épistémologique dans l'enceinte scolaire pour savoir ce que c'est que la mesure pour un enfant qui a déjà 28 heures de cours et qui rentre en ayant tous les soirs 2 à 3 heures de travail scolaire dessus. Bon. Donc il ne faut pas se plaindre derrière qu'on ait des parents qui aient l'obsession quelque part de cela. Hein. Et je crois par exemple que le petit débat qui a pris corps en début d'année autour des APC est assez révélateur de cela. Hein. Si j'ai bien compris, et pour en être modestement un des auteurs, allez voir le rapport de l'inspection générale sur les APC, dessus, il y a là une forte distorsion entre des parents, notamment des parents des milieux populaires, qui plébiscitent les APC, et une partie de la profession enseignante qui veut utiliser cela pour, en gros, ce qui est tout à fait son droit, améliorer sa condition pour gagner 36 heures dans l'année. Voilà quelque chose dont il faut parler de toute urgence localement, entre acteurs, et de se mettre d'accord. Hein. Parce que sinon, on risque d'avoir une zone de tension qui va continuer à monter. Voilà. Alors, rappeler à quoi sont destinés les APC, et dissocier une revendication sans doute juste, légitime, enfin bon, c'est la fonction des syndicats, pour améliorer les conditions de travail des personnels et tenter de continuer à relier des professions qui sont quasiment, on va dire, les mêmes entre l'école primaire et le collège, mais qui n'ont aujourd'hui encore malheureusement pas la même considération. Ça, c'était un problème. Puis de l'autre côté, la question de l'accompagnement offert aux enfants par le droit de 36 heures dans l'année pour les aider à mieux maîtriser leurs apprentissages ou à conduire le projet de l'école ou à mieux maîtriser les modalités et les techniques pour apprendre. Voilà. Il y a là quelque chose de relativement angoissant, quoi, si on n'arrive pas à se mettre d'accord là-dessus. Et donc, je crois que dans cette phase de, à la fois d'élaboration et de conduite du PEDT et d'une politique éducative globale plus large, c'est l'occasion pour les acteurs de ne pas se faire une représentation du jeu des autres acteurs qui sont une représentation faussée. Hein. Parce que sinon, après, le PEDT, il a une dimension tout à fait artificielle. On est en présence d'acteurs qui ne se connaissent pas ou qui ne se connaissent qu'à travers les représentations qu'ils ont du jeu des autres dessus. Et donc, et on pourrait le dire de tous les autres, tous les autres acteurs. Il n'est pas interdit d'avoir des interrogations aussi sur la famille, sans pour ça les accuser. Il y a des interrogations communes sur les responsabilités des uns et des autres, et y compris aussi sur le monde associatif. Je crois que c'est ça qui est en arrière-plan, il me semble, d'une volonté de prise en charge plus global des enjeux éducatifs sur un territoire.
Peut-être tu nous invitais à réfléchir. Enfin, il y a, moi je crois, enfin en tout cas moi je le vois sur Saint-Denis, certainement un écart entre l'édito du maire dans le PEDT et la pratique. Alors nous on a pas l'expérience de la durée de Paris. À notre. Parce que juste une parenthèse, pour les étudiants de Sciences Po, pourquoi on a la généralisation des PEDT ? Parce que c'est pas obligatoire. Il y a une réponse qui est relativement simple, c'est que c'est 90 euros par gamin scolarisé pour une ville comme nous. Parce que on est, voilà, si vous n'êtes pas DSU, c'est 50 euros. Mais voilà, enfin, c'est la généralisation, elle vient de là. Alors moi je crois que et donc on n'a pas la pratique de Paris. Moi le point où on en est, c'est comment on fait pour que justement réduire ce delta entre l'édito et la pratique, et que ça ne... Moi, je pense que c'est là le problème que nous avons, moi, à Saint-Denis. C'est ça, ma question. D'ailleurs, c'est pas... et ça ne peut se faire, je crois, que sur l'école. Alors, voilà, à Saint-Denis, nous avons sur le même lieu le centre de loisirs et l'école. Voilà. Donc, sur le même lieu, nous avons les professionnels. Voilà. Nous avons développé, nous avons profité de ces deux ans-là pour renforcer notre structure de professionnels. Mais il n'y a que par la rencontre de l'équipe enseignante et l'équipe du centre de loisirs qu'on est en capacité de réduire ce delta de la pratique. Et aujourd'hui, la difficulté de cette rencontre, c'est la difficulté très concrète de trouver des temps communs. Parce que par nature, les uns s'occupent des enfants quand les autres ne s'en occupent pas. Et quand, une fois que la transition est faite, les choses sont passées. Donc, quel est concrètement, comment on trouve les temps communs et la capacité à trouver des sujets communs? Alors, j'ai tendance à penser que la question des sujets communs est moins complexe que la question des temps communs. Mais moi, je ne crois pas qu'on puisse réduire cette question de l'écart sans dézoomer, enfin, au contraire, zoomer extrêmement et la poser aux acteurs eux-mêmes sur le terrain. Quoi. De la même façon, enfin, sur la question mixité, valeurs communes, bon, nous, Saint-Denis, on a connu et l'attentat le 13 novembre et 5 jours après, l'intervention policière dans le centre de la ville pour arrêter et en l'occurrence mettre hors d'état de nuire deux des terroristes des tueries du 13 novembre. Donc cette question des valeurs communes, du travail, voilà. Moi, je regrette qu'il n'y ait pas eu de réflexion commune entre les personnels des centres de loisirs et les personnels de l'école pour dire comment on a vécu un traumatisme, comment on dépasse et comment on aide les enfants à dépasser ce traumatisme. Le seul endroit où ça s'est réellement fait, c'est celui dans l'école de la rue où il y a eu l'intervention policière, où nous y avons été obligés parce que le traumatisme était trop fort. Mais à aucun moment, collectivement, on s'est dit comment nous allons aborder cette question-là dans une ville qui, je le répète, a vécu un traumatisme. Et donc, je suis persuadé, moi, aujourd'hui, que notre vrai problème, c'est celui de la rencontre des acteurs. Je ne doute pas que les villes, les inspections voilà, ont la volonté, mais comment on fait concrètement pour que les acteurs sentent que ce document, enfin, on ne va pas faire du fétichisme autour du document, mais comment l'objectif, la volonté commune, elle se traduit et comment on permet la rencontre. Voilà. Moi, c'était ça que je voulais surtout dire. Peut-être une chose sur... je partage complètement ce qui s'est dit sur la question de la qualité. La question de la qualité, quand il faut qu'on la regarde, renvoie complètement à la diversité des attentes des parents. Je souscris complètement à ça. Dans nous, on voit des attentes qui sont foncièrement différentes. Avec une vraie difficulté, je trouve, enfin, la plus grande difficulté pour nous, c'est d'expliquer qu'il n'est pas grave que l'enfant ne fasse rien. Et que ça, dans la discussion avec les parents, c'est extrêmement compliqué parce qu'il y a les attentes scolaires, parce que plus l'attente d'égalité est forte, et en particulier des milieux populaires, plus elle est renvoyée à la question scolaire, et plus la demande est celle du cours de soutien, et que il est difficilement envisageable pour, en particulier pour ces populations, que le temps d'animation soit, ou le temps de loisir, soit un temps éducatif utile. Voilà. Et je trouve que, pour notre part, nous n'avons pas encore réglé cette question. De quel est le sens du temps éducatif, du temps de loisir, de loisir éducatif. Et peut-être parce que nous n'avons pas résolu cette question-là, y compris avec nos personnels, nous sommes peut-être, nous, en difficulté pour en faire, pour aller à la discussion avec les partenaires et les parents sur l'intérêt d'avoir un travail commun.
Merci de ce témoignage. On voit bien l'importance de travailler sur la question du sens spécifique, l'appropriation par les professionnels, la transformation des acteurs. On voit que tout ça prend du temps. Et on retombe sur votre question, hein, c'est comment prendre le temps localement d'élaborer des dynamiques qui vont au-delà des urgences institutionnelles. Mais je pense que beaucoup de villes éducatrices pourraient témoigner d'un travail de long terme qu'elles ont pu faire indépendamment des injonctions institutionnelles. Et on mesure là toute l'importance de la volonté politique locale dont vous témoignez pour engager ce travail. Il nous reste 5 petites minutes peut-être pour prendre encore quelques réactions aux questions. Monsieur.
Merci. Alors moi, je m'appelle Jacques Berthaud, je suis coordinateur PEDT sur une commune de l'agglomération de Grenoble, de Mélan. Je partage tous les constats qui ont été faits depuis ce matin sur les relations partenariats, enfin tout ça. Moi, ce qui m'intéressait, là, c'est de revenir 5 minutes, enfin pas 5 minutes, puisqu'on a que 5 minutes, sur l'écart entre les axes des PEDT et la déclinaison sur le terrain. Aujourd'hui, la concertation... Enfin, nous, de terrain, on l'a faite avec les parents. La représentativité des parents, ça pose aussi question. Toujours les parents qui sont élus, c'est au conseil d'école, etc. C'est eux qui sont invités dans les comités de pilotage. Un turnover des parents, parce que quand le gamin il passe au collège, et ben, du coup, on ne les retrouve plus. Donc, on n'arrive pas à stabiliser des comités de pilotage. On a des axes. On a fait des enquêtes auprès des parents. 80% des parents sur notre enquête, la première année, ne connaissent pas les axes du PEDT. Malgré qu'on a travaillé avec les 80% des animateurs qui travaillent avec nous, nos animateurs, les axes du PEDT, pour eux, c'est du, je vais dire, je suis un peu vache avec eux, c'est du chinois. C'est-à-dire qu'en fait, pour arriver à retravailler avec des animateurs, donc on a des animateurs qui sont payés très très bas, qui travaillent 9 heures par semaine, on n'arrive pas à stabiliser des emplois, c'est très 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 compliqué de les faire adhérer ou à comprendre ce que nous, en fait, on travaille. Il y a plusieurs sphères. Il y a la sphère politique, c'est l'édito du maire. Il affiche... en fait, son programme politique, ses orientations, et il dit qu'il a travaillé avec l'éducation nationale. Après, vous avez les techniciens comme moi, les animateurs, les directeurs de centres de loisirs, où on essaye de décliner auprès des équipes d'animateurs et des parents, du coup, dans des comités périscolaires qu'on a mis en place, les axes du PEDT, pourquoi on le fait, à quoi ça sert. Autre exemple, là, sur les questions de poumons des enfants, c'est super important. On commence à retravailler sur la qualité de l'air à l'intérieur des établissements scolaires, à l'intérieur des ALSH et dans les chambres des enfants. Je ne raconte pas la chambre du mien. D'accord ? Il faudrait qu'il aère un peu plus souvent. Il aura peut-être mieux. Oui, donc du coup, ces questions-là, elles ne sont pas abordées, vous avez raison. Et les animateurs aujourd'hui, en fait, on est en LSH, on les forme au BAFA, on les garde un an, ils s'en vont. Tous les ans, et je pense qu'on a été au réseau des villes éducatrices il n'y a pas très longtemps, c'est le constat général sur toute la France. C'est-à-dire qu'on ne peut pas travailler concrètement sur l'appropriation des axes du PEDT et des activités avec les animateurs parce qu'ils ne restent pas. Ils sont très peu formés. Et c'est vraiment, on retrouve des cas de figure très, très hétérogènes. Enfin, il y en a de partout. Vous avez des gens au chômage, vous avez des étudiants, vous avez des vieux. Enfin, voilà. Donc, du coup, c'est compliqué de décliner comme ça sur les différentes strates. Donc, nous, on travaille avec le CDG 38. Là, je crois que ma collègue, c'est arrivée. Et même avec Karine. On travaille sur la formation des animateurs. Comment pérenniser les emplois, comment créer de la qualification professionnelle. Parce que, du coup, c'est vraiment... Donc, on peut faire tout ce qu'on veut. À un moment donné, quand on va dire vivre ensemble, on va faire du sport, l'animateur, ok, il va faire du sport, il va dire j'ai fait le vivre ensemble. Mais vous avez raison, hein. Est-ce que derrière, ça suffit ça... Voilà, je voulais juste apporter ce témoignage de terrain, en fait. Hein.
Merci. Monsieur ici, et puis deux paroles au fond.
Vincent Laronde, direction des affaires scolaires de la ville de Paris. Une réflexion, en fait, trois réflexions sur les thématiques que vous avez soulevées. Une réflexion, ces réflexions nourries de la phase d'évaluation que nous avons pu conduire sur Paris pour le précédent PEDT, phase d'évaluation qui a duré 6 mois et qui a conduit à un grand nombre de groupes de travail, etc. Une réflexion sur les valeurs et dites communes ou dites de la République, une réflexion sur le projet global et une réflexion sur la qualité. Ce qui est apparu pour nous très important, très vite, dans la phase d'évaluation vis-à-vis de l'ensemble des partenaires, des acteurs éducatifs, c'est d'aller dans l'explicitation de l'usage des mots, M-O-T-S. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand on entend le discours ambiant, tout le monde est pour les valeurs de la République. Et donc, on évite, c'est ce qu'on a connu en 2000, après les attentats, on est très vite dans une forme d'incantation. C'est un vocabulaire judéo-chrétien, mais bon, c'est celui qui me vient. Où on est dans la République, la République, la République. Et il nous est apparu très important d'aller, même si au départ, pour certains, c'était presque hérétique, c'est-à-dire d'aller dans oser dire qu'est-ce que vous entendez, vous, en tant qu'acteur éducatif, que vous soyez parent, professeur, animateur, cadre, ceci, cela, inspecteur, élu, qu'est-ce que vous entendez par valeur, valeur de la République. Et dans le fait, très vite, de faire ce travail d'explicitation pour arriver à des valeurs dites communes, parce que penser qu'au départ, ces valeurs sont communes, c'est un leurre, même si c'est douloureux pour nous, en tant que républicains. Et donc, faire tout ce travail d'explicitation, des mots, des valeurs, voilà, et pour ensuite glisser de l'incantation au fait d'incarner les choses au quotidien avec les enfants. Et qu'est-ce que cela veut dire quand on est un acteur éducatif et qu'on est au quotidien avec des enfants, que c'est soit notre métier, soit on est parent, qu'est-ce que ça veut dire d'incarner ces valeurs et de la difficulté de les incarner, parce qu'il ne faut pas nier a priori le fait que parfois c'est difficile au quotidien d'incarner ces valeurs, parce qu'on est des hommes et des femmes et que parfois un enfant peut, ou un jeune, peut nous faire sortir de nos gonds, etc., etc. Bon, voilà, toute cette réflexion-là, et s'autoriser à dire c'est dur, c'est difficile. Donc lever une forme de tabou et d'avoir une réflexion plus globale. Alors justement, global, projet global, une autre réflexion sur ce sujet, c'est le rapport au pouvoir des institutions et des acteurs. Il ne faut pas faire l'économie si nous souhaitons passer d'un projet communal à un projet global éducatif qui englobe les temps, les âges, voilà. Il ne faut pas faire l'économie d'avoir une réflexion sur, et aussi de poser les choses sur la table de la part des institutions et de ses acteurs à tous les niveaux, du rapport au pouvoir. Parce que on se rend compte que c'est difficile à quatre partenaires d'arriver à un projet éducatif et de s'entendre sur ce que nous voulons, ce que nous souhaitons, les constats, les ambitions, les modalités de mise en œuvre, etc. Parce que ce n'est pas toujours dit, mais ça renvoie à voilà mon champ de compétences. Voilà ce que je suis, tu empiètes sur ce que je suis, tu... Voilà. Et il ne faut pas faire l'économie de ça et d'aller même à poser des mots sur ce sujet-là. Parce que parfois, il y a beaucoup de non-dits. Et ça renvoie à la dernière réflexion que j'ai sur la qualité et l'action conduite, ce que nous voulons pour les enfants et la façon dont nous, pour les jeunes, la façon de mettre en œuvre. Vous avez parlé de l'attente des parents sur la qualité. Avant d'être à la direction des affaires scolaires, j'étais IENA, dans un département de l'ouest de la France. Et il y a eu en 2013, dans cette mise en œuvre de la réforme des rythmes scolaires, une tyrannie de la qualité, ou un usage facile, on va dire une facilité de langage en disant, mais bien évidemment, de la part de l'éducation nationale qui accompagnait les communes, ou de la part des communes, bien évidemment, nous allons faire de la qualité. Qui va dire, nous allons faire autre chose que de la qualité? Personne. Mais quand on a dit cela, on n'a pas dit l'essentiel, parce que qu'est-ce qu'on entend par qualité? Et là, se poser la question... Alors, bien évidemment, il y a les attentes des parents, mais il y a aussi les représentations professionnels des acteurs de l'éducation. Est-ce qu'ils sont au clair avec ce qu'ils sont professionnellement, les enseignants, les animateurs? Et là, on voit bien que c'est plus si simple que ça, et notamment sur la question de laisser la place faire. Si je sais professionnellement, moi animateur, dire que ce rien faire a un sens, je sais l'expliquer aux enseignants, à certains enseignants qui parfois, pour certains d'entre eux, ont un regard condescendant envers l'étant dit loisir et envers les parents. Si on peut expliquer que ça a un sens, alors on peut cheminer, on peut avancer. Mais ça renvoie aussi à une forme de pression, à la fois la question, une pression de la dite de la société sur ce que je souhaite pour les enfants. Pression de la société, aussi pression de certaines professions. Parce que on s'est vite aperçu qu'il y avait une forme de dérive de la part, c'est le monde de l'animation, pour parler vite parfois, qui court après le monde enseignant sur la question « je te resserre la soupe ». Pourquoi, moi, animateur, je fais cela? Parce que je peux répondre à des attentes de certains parents ou de certaines catégories sociales de parents, pression dite scolaire, réussite scolaire, etc. Mais je peux répondre aussi à la condescendance parfois de certains ou la contestation en légitimité professionnelle de la part de certains enseignants en disant « mais regardez, nous sommes complémentaires aussi parce que nous pouvons faire de la qualité ». Avec nous, ce qu'on a connu en 2013 ou 2014 sur la ville de Paris, des ateliers périscolaires dont les intitulés me faisaient penser à des unités de valeur, de licence, voilà, où justement on se disait « regardez ce que nous faisons ». Et là, on a connu cette forme de dérive qu'on corrige, mais qui est difficile parce que ça renvoie à quelque chose qui peut nous dépasser, mais sur lequel nous pouvons avoir collectivement une prise, c'est-à-dire une pression de la société, et encore aujourd'hui, quelque chose qui traverse le monde de l'animation et le monde enseignant, c'est-à-dire, c'est pas une crise sur la légitimité, mais c'est une notion de qu'est-ce qui fonde ma professionnalité.
Merci. Deux dernières prises de parole, au fond.
Bonjour, Michel Cassado, directeur de service en pense jeunesse sur communauté des communes de Mirepoix. Pour situer le sud de la France, 153 000 habitants, c'est énorme, mais ça, ce sont les valeurs de l'Ariège en général, le département. Et donc mon territoire, c'est 10 000 habitants, 13 écoles, 875 enfants scolarisés. C'est pas grand-chose, mais un milieu très rural, sans aucun moyen de locomotion interne. Ça pose la question de la mobilité dont on a parlé tout à l'heure. Moi, je voudrais juste expliquer un peu ce qui se passe sur le terrain aussi, parce que j'entends tout ce que vous avez dit, j'adhère à ce que vous dites, j'idéalise même le fonctionnement sur mon territoire, mais la réalité de gens de terrain, c'est pas tout à fait ça. Je vais parler un tout petit peu d'argent, désolé, mais on parle entre 50 et 90 euros abondés aux communes sur les fonds d'amorçage, fonction s'ils sont des SR cibles ou pas. Et ça, ce sont les communes qui ont eu un impact économique sur la gestion de l'école, avec des temps supplémentaires, du ménage supplémentaire, du personnel d'entretien en plus. Donc les communes l'utilisent à bon escient. Moi, je travaille sur une communauté des communes qui n'est pas signataire des PEDT et pourtant qui est à la mise en œuvre. On n'a pas reconnu la signature du président de la communauté des communes et tout le socio-éducatif est géré par la communauté des communes. Voilà, légitimité un peu limitée. On a parlé de 50 euros de la CAF, c'est vraiment le maximum pour 3 heures d'amplitude des AP, des TAP, 4h75 en réalité, de temps dégagé de la réforme. Une ingénierie énorme, écrire un PEDT, sur les concertations, pour si peu qu'il y en ait eu sur nos territoires. Un peu d'ironie, ma foi. L'ingénierie administrative, pour toucher les maximum 50 euros que donne la CAF, c'est un temps énorme. Donc, l'animation d'un PEDT, pour ma part, c'est 10% d'un 45 heures semaine. Donc, l'équivalent temps plein, je ne sais pas ce que ça représente. Donc, Yves, tu nous disais qu'il y avait 60% de territoire qui avait un coordonnateur. Quel est l'équivalent temps plein? Je me pose la question. Quand je vois notre territoire ariégeois, on a un coordonnateur sur une communauté de communes de politique éducative à temps plein. Tous les autres, on est directeur de structure, directeur de service en phase de jeunesse. Ça veut dire qu'on se tape toute la CAF, les RH des services en phase de jeunesse. Certains vont même faire du terrain pour les absences et toute la part administrative. Voilà. Je continue un tout petit peu. On nous a demandé dans la réforme scolaire PCI, mais on va avoir très peu de rentrées financières puisque ce sont les communes qui perçoivent les fonds d'amorçage, et on nous demande de faire mieux, faire plus à moyens constants financiers du service, donc humains, donc beaucoup de temps de réorganiser et de démarrer. Et je rejoins les propos du coordonnateur qui a parlé avant nous, mais je crois que c'est la ville de Grenoble à peu près là. Pardon. Sur le volet de la formation des animateurs, mais surtout, côté formation, a été pour nous de conscientiser l'action que nous faisions, mettre un sens, mettre des mots sur le sens qu'on menait à l'animation, pour dire, effectivement, on commence à se positionner aussi en tant que vrai acteur éducatif, puisque la réforme a quand même amené le côté concertation des acteurs éducatifs. On n'est pas des amuseurs, on est des animateurs, on a essentiellement travaillé là-dessus. Parce que toujours pareil, à moyen constant. Alors peut-être qu'on a une collectivité qui est un peu raide financièrement, mais quand je vous rappelle que l'Ariège, c'est 150 000 habitants, vous voyez bien le milieu rural tel qu'il est. Et je ne parlerai pas de la défaillance économique de nos territoires depuis 20 ans. Voilà, donc ça c'est la vraie réalité de ce qu'on gère au quotidien. Le côté administratif, j'en ai parlé un tout petit peu de la CAF, ça s'alourdit de plus en plus. Sur une 45 heures semaine, pour rentrer 10 euros, c'est plus de la moitié de mon temps de travail qui est dans un bureau à faire l'administratif pour trouver des moyens nécessaires pour que les animateurs puissent avoir des moyens d'acheter ne serait-ce qu'un peu de matériel pédagogique. Parce qu'à moyen constant sur le service, on a pris de l'argent sur le pédagogique pour payer un peu plus d'animateurs. D'accord ? Moyen constant du service. Parce que la réforme scolaire a amené du temps supplémentaire aux animateurs. Ça, c'est un peu notre réalité du quotidien. Des gens ont évoqué la complexité des horaires qui sont en décalage dans le même groupe scolaire, école maternelle, école primaire, demi-heure de décalage, grosse complexité de gestion du service au quotidien. Voilà. Et on a bien sûr derrière les attentes des institutions, des élus, parce qu'ils ne font pas de cadeaux non plus. Et les parents, mon collègue me rappelle les parents, c'était mon troisième point. Voilà. Et nous, on doit conjuguer avec tout ça le nombre d'animateurs en équivalent temps plein. On ne peut pas demander non plus des miracles à des gens qui sont en milieu rural sur du 20h, 22h, 24h, 25h semaine, qui sont payés sur la base du SMIC, mais à 25h semaine. Et ils se sont fortement remobilisés sur de nouveaux projets, mais on ne peut pas leur demander la lune. Ils ne touchent même pas un SMIC. Voilà. Et ça, c'est la réalité un peu de nos fonctionnements. Voilà, je voulais juste amener ce petit témoignage, parce que je bois un peu vos paroles, et je me dis, waouh, je rêverais de travailler à la mairie de Paris, peut-être, ou pas.
Merci de ce témoignage. Je pense que vous aurez l'occasion d'y revenir dans les ateliers sur les difficultés concrètes de la mise en vie des ambitions que nous partageons. Un dernier témoignage et puis on fera la...
Bonjour, Julien Barrère, je travaille sur une mission d'accompagnement des politiques éducatives sur le département de l'Ariège. On est venu en force. Je voulais revenir sur cette notion de projet global et vous en avez un petit peu parlé sur le volet social. Moi j'ai du mal, enfin en tout cas sur notre département, à comprendre aujourd'hui comment les institutions travaillent entre elles. On a le PEDT, on a le schéma service aux familles, on a la politique de la ville. Donc pour les acteurs locaux, il faut mettre en place des comités de pilotage pour les PEDT, il faut mettre en place des comités de pilotage pour le schéma de service aux familles, il faut mettre en place des conseils citoyens pour la politique de la ville. Pour les habitants, et je pense que du coup, on essaye de les concerter à tout va, mais c'est très cloisonné. Et je me demande si le défi aujourd'hui, c'est pas de parler de politique éducative et sociale d'un territoire et de savoir comment effectivement les institutions peuvent essayer d'harmoniser leurs dispositifs au niveau national. Parce que je veux dire, les institutions au niveau local, en tout cas au niveau départemental, elles sont aussi en difficulté. Parce qu'elles doivent, elles nous disent, bah, écoutez, là, nous, on va signer le schéma de service aux familles, donc on va travailler sur la place des parents, sur un volet très social. Bon, on va faire signer l'éducation nationale, mais dans le projet, dans le schéma service aux familles, on ne parle pas trop d'éducation. Dans les PEDT, on parle beaucoup de réussite éducative, donc ça, c'est très bien, parce que jusqu'à maintenant, on parlait de réussite scolaire, on parle de réussite éducative, mais on ne prend pas trop en compte ce volet social. Et donc je me demandais comment on pouvait faire remonter au niveau national que effectivement ce foisonnement de dispositifs sur les territoires, en tout cas sur notre département, ça met en difficulté les institutions départementales et du coup les acteurs locaux qui doivent voilà, piloter tous ces dispositifs au niveau local, mettre en place des comités de pilotage, des temps de concertation. On n'a jamais autant concerté. En tout cas, on n'a jamais autant informé la population, parce que même quand on concerte, des fois, effectivement, on a l'impression qu'on fait juste de l'information. Et voilà, donc je voulais savoir, je ne sais pas s'il y a des institutionnels dans la salle, mais effectivement, comment on peut interpeller les institutions sur ces problèmes.
Les représentants des institutions, des grandes institutions partenaires, seront là demain après-midi sur la table ronde de conclusion. Je pense qu'effectivement, c'est une question assez récurrente, hein, la question de la mise en cohérence des différents dispositifs, mais on a peut-être l'occasion d'avoir à nouveau cet échange-là demain. Je suis désolé de devoir couper l'échange. Peut-être, je ne sais pas si messieurs vous souhaitez un mot de conclusion.
C'est pas une conclusion, parce que d'abord, il n'y a pas lieu de conclure. Il y a forcément un décalage entre une perception, je dirais volontairement, non pas globalisante ou totalisante, mais c'est de tirer des enseignements collectifs d'une réalité qui encore est extrêmement diverse. Moi, pour me promener pas mal, comme on dit, sur les territoires, aussi bien avec ma casquette institutionnelle que celle d'un mouvement éducatif, je crois que je perçois assez bien la diversité des situations et qu'il ne faut pas nier qu'il y ait des difficultés. Voilà. Simplement, encore une fois, je trouve qu'en 3 ans, il s'est passé des choses que notre pays devrait être beaucoup plus fier de porter qu'on ne le dit. Voilà. Après, qu'il reste des difficultés, il y en aura toujours. Mais c'est un vrai état d'esprit de considérer qu'on est au début de quelque chose ou de considérer qu'on est bientôt en train de conclure parce que, par exemple, pour des échéances électorales à venir, on va tout arrêter dessus. Moi, je pense qu'on est au début de quelque chose et que cet élan-là ne s'arrêtera pas. Mais qu'on n'a pas forcément une conscience globale et partagée de ce qui est en train de se passer parce que bah, chacun, on est le nez dans son propre guidon. Et moi, je suis très d'accord avec ce qui a été dit précédemment sur la nécessité de mettre la focale, comme on dit, sur des choses très précises qui semblent être soit un frein, soit au contraire un véritable levier qu'on peut activer. Et alors je vais prendre 3 exemples. Un très rapide sur la question des moyens qui est alors d'une énorme facilité, j'en conviens. Comment dire puisque la question éducative semble aujourd'hui mieux partagée, même si elle n'est pas toujours bien posée. Voilà. C'est-à-dire le sentiment qu'on doit faire un effort collectif pour aider les enfants et les jeunes de ce pays à grandir ensemble et d'avoir de la considération commune pour eux. En gros, prendre soin collectivement d'eux. et que cela relève à la fois de politique publique, mais aussi d'une prise de responsabilité de chacun des acteurs là où il est. Ça, je crois que ça n'est pas contestable. Ce n'est pas toujours dit avec ces mots-là. Parfois, c'est dit brutalement. Parfois, il y a des impensés, etc. Mais je ne crois pas qu'on est dans un pays où l'ambition d'éducation est une ambition qui régresse, voilà, ou qui est une ambition... Donc c'est le point de départ. Après, comme toute ambition, quand elle se traduit par la nécessité de politiques publiques, évidemment, la question est posée de savoir comment ces politiques se financent. Notamment pour répondre à ce qui était un des thèmes de cette table ronde, la question de l'égalité. On n'oublie pas que les politiques publiques sont faites pour assurer l'égalité, et pour le droit commun pour tous. Moi, il m'est arrivé de participer à des phases de concertation, à des débats locaux, que ce soit en milieu rural, sur des intercos ou sur des agglomérations. Je crois qu'il est temps de mettre la question du budget ou la question des moyens aujourd'hui dans ces débats-là aussi. Et en gros, de prendre collectivement conscience que nous allons avoir besoin d'investir encore plus sur l'éducation que nous ne le faisons jusqu'à présent. Et que cet investissement-là, il va falloir se poser la question de son financement collectif. Disant cela, j'ai rien dit. Mais j'ai quand même dit que c'est la question des finances des collectivités locales, de la place que l'État fera à l'éducation dans ses politiques éducatives, qu'elles soient scolaires ou autres, du maintien par la Caisse de l'allocation familiale d'un volant de financement important, parce qu'il faut rappeler qu'aujourd'hui les CAF sont des éléments déterminants dans les politiques éducatives locales. Or, ça n'est pas gagné. Vous savez que les CAF sont gérés, on va dire, quelque part par les citoyens, si on le veut, et par leurs représentants, dans le cadre d'un paritarisme qu'il faut absolument préserver, et dans le cadre de choix dans les CAF qui aillent aussi sur l'éducatif et pas simplement sur d'autres domaines. Bref, on est devant un débat qui est éminemment politique et qui peut être transposé localement devant une prise de conscience globale que c'est quand même quelque part l'affaire de tous, et qu'il faut s'en souvenir et pas simplement au moment des élections. Et qu'un maire ou un président d'intercommunalité ou qu'au niveau national, un ministre ou une majorité parlementaire soit d'autant plus fondé à faire des efforts et les faire partager que tout cela est précédé d'une prise de conscience collective, y compris parfois extrêmement basique, sur le fait que s'il n'y a pas d'investissement public, les inégalités vont s'accroître ou chacun sera laissé devant sa responsabilité de payer au titre de sa capacité à payer comme parent et comme famille. Voilà. Je pense que des fois, on a une manière de poser d'une façon compliquée les enjeux de la fiscalité, alors que là, on a une bonne occasion de la poser au niveau local à travers les choix qu'il faut faire. Moi, je veux bien qu'on dise qu'aujourd'hui, on est dans un pays qui n'a pas de marge de manœuvre. Je suis désolé, je n'y crois pas un moment. Voilà. Disant cela, ça n'est pas facile à gérer pour des maires, c'est pas facile à gérer pour une majorité nationale, etc. Voilà, le problème, c'est où sont les marges de manœuvre ? Où sont les choix qu'on arrive à faire en conscience ? Comment on ne laisse pas des élus tout seuls assumer des choix indépendamment d'un consentement de la population à l'effort nécessaire à un moment ? Deuxième exemple, sur la nécessaire, alors appelons ça concertation, le travail conjoint, le dialogue, etc. Et la question du temps. Je veux dire, sur toutes les politiques éducatives, depuis 30 ou 40 ans, cette question est revenue. Les enseignants la posent en termes de temps de concertation, hein, plus ou moins important, plus ou moins reconnu, avec d'ailleurs de vrais écarts et des inégalités. Hein, les enseignants du premier degré, professeurs des écoles, qui ont plus de temps d'enseignement que les enseignants du second degré, ont des temps de concertation qui sont moins bien intégrés dans leur temps de travail que les enseignants du second degré qui bénéficient pour l'accompagnement, l'orientation, etc. de temps. Bon, voilà. Ça, c'est un débat qu'on ne résoudra pas ici. C'est un débat qui se résoudra par le travail conjoint, de la représentation syndicale, etc. Dans ce moment-là, qu'est-ce qu'on fait ? Est-ce qu'on ne fait rien ou est-ce qu'on trouve des occasions quand même de faire en sorte que les gens se parlent ? Moi, je crois beaucoup plus aujourd'hui au faire ensemble qu'au temps de dialogue qu'on trouve comme, condition à réunir avant le faire ensemble. Voilà. Quand il y a un objet commun sur lequel on travaille, quand on va faire ensemble, quelque part on trouve le temps. C'est compliqué, c'est douloureux, puis au bout d'un certain temps on se décourage, mais on trouve le temps. Et l'exemple était donné de la lecture. J'ai en mémoire un projet qui est sur une intercommunalité rurale d'ailleurs, dans un département, où cette question de la lecture a été posée conjointement entre l'école, constatant que sur ce secteur-là, il y avait quand même quelques difficultés particulières dans les évaluations, etc., sur l'insuffisance d'un réseau, d'un maillage de lecture publique localement, sur la présence d'associations qui avaient des activités autour de la lecture, notamment avec le réseau Lire et Faire Lire, par exemple, dessus, et comment tout cela pouvait constituer un objet commun sur lequel on travaillait. Eh bien, étrangement, ils ont trouvé le temps de se concerter, d'échanger, de se dire qu'ils ne faisaient pas la même chose, que les apprentissages de lecture à l'école, ce n'était pas la même chose que ce qu'on faisait à Lire et Faire Lire, que la fonction d'une bibliothèque n'était pas une fonction scolaire, mais une fonction culturelle dessus. Et ça a donné lieu à quelque chose qu'on connaît dans certaines villes, qui s'appelle les villes lectures, mais un vrai territoire lecture en milieu rural. Voilà. Et ce temps-là a été trouvé dans l'action, véritablement. Alors, c'est parfois du temps volé, comme on dit, du temps volé sur sa vie personnelle, c'est du temps volé sur le temps de midi, c'est parce que les acteurs se retrouvaient tous à manger au collège en même temps, de temps en temps à midi, et qu'ils ont mis à profit ce temps-là. Voilà. C'est un peu du bricolage, mais je pense que si on attend qu'il y ait des temps institutionnels de dégager comme préalable à la concertation au travail collectif, on l'attendra toujours dessus. Et dernier aspect sur ce que vous évoquiez par rapport à l'exemple de Mélan, encore une fois, je pense que nous ferions une erreur à avoir comme visée en termes, on va dire, d'encadrement ou de conduite du projet éducatif, la professionnalisation intégrale de tous ceux qui interviennent dans un PEDT. Ménageons de l'espace à la place que les habitants sous des formes diverses occupent dans la conduite d'une politique éducative locale. Disant cela, il faut aussi un fonds permanent de professionnalisation et un fonds important pour assurer la continuité, une forme de qualité. Mais la qualité n'est pas uniquement une qualité de type professionnel, ça a été évoqué tout à l'heure. Il y a des qualités éducatives qui sont portées par des non-professionnels et qu'il faut reconnaître dans le cadre d'un projet éducatif local. Après, il faut combiner effectivement l'encadrement permanent, le volontariat, les questions aujourd'hui d'une reconnaissance insuffisante de ces métiers émergents qui ne sont pas reconnus ni en termes salarial, ni en termes de formation, ni en termes de qualification comme ils devraient l'être. Mais faisons en sorte que l'occasion d'une réflexion sur une politique éducative locale ménage de la place, quelque part, encore une fois, aux talents locaux dans la population. Il y a un enjeu démocratique derrière ça. Et il y a un enjeu culturel aussi, au sens de la culture partagée pour le monde commun dans lequel les enfants vont entrer.
Une dernière réaction, David Proulx ?
Enfin, deux choses, peut-être pas pour conclure, mais pour... d'abord, je ne suis pas d'un naturel optimiste, mais je vais commencer quand même par un point d'optimisme. C'est que je pense que s'est engagé ces derniers temps un mouvement qui est, lui, sur lequel on ne pourra pas revenir, qui est la reconnaissance des temps périscolaires, de leur structuration et... de leur professionnalisation, avec y compris ce qui se dit, et que là il y a un acquis, on n'a pas encore, je pense, l'acquis sur la construction de la complémentarité, la construction. C'est ce que disait ma collègue de Paris sur les obstacles à la représentation des uns et des autres. Mais que je pense que le mouvement est inéluctable là-dessus. Et deuxième élément, c'est que il est inéluctable, il est indispensable parce que la question... de l'égalité est une que enfin deuxième élément je pense qui est en train de croître, c'est que la question de l'égalité est une question qui se pose sur la question scolaire, mais pas seulement sur la question scolaire, et que là aussi il y a une évolution, et que là aussi la question de la réussite, la question de l'émancipation, on sent bien qu'il avance collectivement dans les têtes que ça n'est pas, c'est une question scolaire, mais ça n'est pas qu'une question scolaire. Et puis, élément qui, alors là, c'est pas de l'optimisme, enfin c'est de l'espoir. Il y a une tendance à l'ethnicisation des débats quand même. Il y a une tendance dans notre société à et pas que dans notre société, quand on voit les élections américaines par exemple,
a une volonté. Il y a un vrai débat actuellement sur la question ségrégatif ou pas ségrégatif. Voilà. Enfin, il y a un débat sur égalité ou ethnicisation de notre. Et que si on veut, je pense, avancer sur la question de l'égalité contre, pour s'opposer à ces questions d'ethnicisation des débats, de ségrégation des populations, il nous faudra des efforts collectifs énormes sur la question de l'éducatif, sur la question globale, voilà, pas seulement scolaire. Il nous faudra des efforts énormes sur cette question pour construire du commun à partir de nos diversités. Et que c'est l'école, il y a sa place, mais que c'est bien au-delà de l'école que ça se fait. Donc, pour dire des éléments d'optimisme et des éléments de débat, de construction, de bataille qu'il va falloir mener et replacer la question de comment on est collectivement des éducateurs, comment collectivement on construit du commun dans une société qui est une société diverse, plurielle. Ça reste, je crois, un enjeu majeur dans la période qui s'ouvre.
Merci de ces mots. Merci à vous, messieurs. Merci de votre écoute. Et je passe la parole à Yves pour quelques éléments d'organisation.
Quelques éléments d'organisation, mais je ne peux pas m'empêcher quand même. Je suis allé en Ariège et j'ai pu voir quand même la richesse de ce qui était développé comme action éducative sur le territoire. Les réseaux que vous aviez su construire de petite enfance, de centres de loisirs associés à l'école, de projets jeunesse, vous pourrez en parler dans les ateliers. Je ne voulais pas laisser juste sur une note de difficultés, parce qu'elles existent, les difficultés, elles sont là. Toutes les questions, je veux dire, il ne s'agit pas de les cacher, mais de pouvoir s'appuyer sur ce que vous faites et ce que vous avez réussi à faire et avant même l'arrivée des PEDT. Je crois que c'est important aussi à dire, parce qu'on a besoin, je reprendrai ce que disait Riff Favet là-dessus, de s'appuyer sur, de montrer que c'est possible, quoi. C'est pas un discours qu'on plaque sur des réalités. Il y a des actions qui montrent que l'on peut effectivement avancer avec toutes les questions, toutes les difficultés, toutes les problématiques qui ont été soulevées. Le deuxième élément, mais on s'en fera le reflet demain, le projet global, c'est pas une idéologie comme ça qui sort, un projet théorique qui sort, c'est aussi une réponse à des difficultés concrètes. Par exemple, vous évoquiez la morcellisation des temps de travail qui introduisait une précarité et une rotation. Plus vous aurez une approche globale sur l'ensemble des temps, plus on pourra travailler sur la constitution de blocs horaires de travail suffisants pour les stabiliser et faire de la formation qui ne soit pas à fond perdu. Donc c'est à la fois une difficulté, cette approche globale, mais aussi une partie de la solution.